On va aller dans Hébreux, chapitre 13, versets 17 à 25. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. C'est avec insistance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Alors, on va demander la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. En notre Dieu, on vient à ta présence, Seigneur. Tu nous as tellement aimés de toute éternité. Tu continues de nous aimer. Tu continues de déverser de très abondantes grâces sur nous. D'abord, tu nous as libérés, Seigneur, de notre condamnation à la perdition éternelle. Tu nous as donné la paix de l'âme. Alors, Seigneur, on veut aujourd'hui recevoir ta parole, l'entendre, avoir le cœur bien préparé à vraiment recevoir ta parole et à la laisser agir dans nos vies pour qu'elle nous change, qu'elle nous transforme, qu'elle nous rende meilleurs. Et tout cela, Seigneur, c'est le moindre des choses qu'on peut faire pour avoir un peu de remerciements à te donner pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire chaque jour. Alors, Seigneur, que ton esprit nous illumine aujourd'hui, nous conduise, nous fasse comprendre le sens de ta parole ce matin et pour qu'on puisse la mettre en pratique. Et tout cela, Seigneur, si on le fait, on va t'apporter une plus grande gloire. On te le demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on va faire une révision parce que, vu que c'est le sermon qui conclut le livre d'Hébreux, bien entendu, si on veut avoir quelque chose de solide, il faut faire un peu une révision de l'ensemble des choses qui sont enseignées dans ce livre-là. Alors, dans ce passage-là, là, on avait commencé à étudier trois choses. Moi, j'ai intitulé le message « La vraie foi s'exprime par notre obéissance ». La première partie, on l'a faite il y a deux semaines. Là, on continue, on est dans la deuxième partie. Donc, notre obéissance, à l'intérieur du texte, elle se révèle sur trois aspects différents. Notre obéissance au conducteur délégué, parce que quand quelqu'un est nommé par Dieu, par la Providence, comme conducteur, bien entendu, c'est une délégation de l'autorité de Dieu pour son peuple. 17 à 19, c'est vraiment l'obéissance au conducteur délégué. Versets 20 à 22, c'est notre obéissance au conducteur décrété. On va voir que là, il change. Au lieu de parler des hommes, il parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ensuite, au conducteur déclaré, on voit que dans le fond, il dit « saluer les conducteurs, saluer Timothée ». Il parle de gens qui sont en l'extérieur de l'Église. Donc, on voit le mouvement, vos conducteurs locaux. Ensuite, il parle des grands conducteurs, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ensuite, il étend les choses aux conducteurs de d'autres. Il dit « Salut les conducteurs, ceux d'Italie vous saluent ». On va revenir un petit peu là-dessus tantôt. Alors, le but premier de l'Épître aux Hébreux, c'était quoi? C'était que les Hébreux étaient tentés de retourner dans le judaïsme. Et ça aurait été une très, très grave erreur pour eux de le faire. Et tout le but, toute la centralité, l'idée principale de l'Épître aux Hébreux, c'était pour démontrer l'infinie supériorité de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ sur le judaïsme. Alors, à partir du 1-1, aller jusqu'à où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, il ne fait que ça, démontrer que Jésus-Christ est infiniment supérieur au judaïsme et qu'il se devait alors de l'abandonner. On va passer rapidement l'épître pour voir comment il avait procédé pour démontrer ça. Et après ça, on va voir la conclusion, ça arrive après avoir tout démontré ces choses-là. D'abord, il avait commencé par identifier qui était Jésus-Christ. Alors, il dit, dans les temps anciens, on parlait par des visions, Dieu parlait par des prophètes, Dieu parlait par des rêves, Dieu parlait par toutes sortes de moyens, mais en les temps présents, Dieu a fait quelque chose de particulier qu'il n'avait pas fait avant. Il parle directement par son Fils. Alors, l'identité de Jésus-Christ était identifiée comme étant l'incarnation d'une personne divine dans un corps d'homme, Jésus-Christ. Donc, Jésus qui est venu sur la terre est à la fois un homme et Dieu dans une seule nature, c'est-à-dire une seule personne avec deux natures, nature divine, nature humaine. Il leur avait rappelé que ce personnage-là avait quelque chose de particulier, qu'il était le créateur. Donc, on peut dire de Jésus-Christ qu'il est le co-créateur. Il a créé le monde et l'univers et tout ce qui existe avec le Saint-Esprit et Dieu le Père. Et c'était pas un deux de pique, là. Il est en train de leur dire, faites attention, parce que la personne dont on est en train de parler, c'est aussi le créateur et aussi le rédempteur. Celui qui amène le pardon des péchés et qu'il est maintenant assis au ciel. Donc, le travail que le Père lui avait donné à faire, il était terminé. Le fait d'être assis dans les Écritures, ça l'enseigne toujours que ce que tu avais à faire est fait. Après ça, il nous avait montré que l'auteur avait démontré l'idée que Christ était supérieur aux anges, à Moïse, à Josué et à Aaron. C'était tout. Moïse était celui qu'ils avaient conduit. Josué, c'était le conducteur militaire qui avait sorti Israël et qu'ils avaient fait commencer à rentrer dans la terre promise. Et Aaron, c'était le premier souverain sacrificateur. Pourquoi il nomme son nom? Pourquoi il a voulu démontrer qu'il était supérieur au souverain sacrificateur? Parce que eux étaient encore dans le système où le souverain sacrificateur se devait de faire une chose une fois par année, pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Alors, ça devrait vous rappeler quelque chose quand on va réviser ça. Ensuite, il nous avait montré que Jésus était le souverain sacrificateur décrété par Dieu lui-même, parce que une des objections des Juifs de l'époque, c'est qu'ils disaient, ouais, mais les souverains sacrificateurs, dans les Écritures, c'est marqué qu'il se devrait d'être un fils de Lévi, de la tribu de Lévi, et un descendant direct d'Aaron. Donc, il fallait que ce soit un fils d'Aaron, que lui avait des fils, et que ça s'est transmis comme ça sur plusieurs centaines, plusieurs même milliers d'années, même au moins 1000 ans. Et qu'il voulait démontrer que Jésus était aussi un souverain sacrificateur, mais là, les Juifs, ils auraient dit, ben, ça marche pas ton affaire. Jésus, il est de la tribu de Judas. Donc, il ne peut pas être un souverain sacrificateur, parce que c'est ça que ça dit dans les Écritures. Et là, il fallait qu'il démontre que si tu es un souverain sacrificateur, où qu'il est allé chercher l'autorité pour le devenir? Alors, il avait rappelé que Dieu avait dit, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. On avait tous vu ça. Alors, Jésus avait l'autorité et il s'était fait donner ça directement par son Père. Et que ce souverain sacrificateur-là offrait une meilleure assurance quant au salut et une caractéristique qui était bien particulière pour Jésus, il intercède continuellement. Aujourd'hui, même Jésus est assis au ciel et il intercède pour qui? Pour nous, chacun individuellement. Et la différence avec les sacrificateurs de l'époque, c'est que les souverains sacrificateurs de l'époque avaient une vie. Ils mouraient à 110, 115, comme nous autres, 80. Puis après qu'ils mouraient, bien là, ils ne pouvaient plus intercéder, ils étaient morts. Ça se transmettait. Mais il est en train de leur faire prendre conscience que Jésus, lui, depuis qu'il est venu sur la terre, il n'a jamais arrêté. Ça fait 2000 ans qu'il est venu, mais ça fait 2000 ans qu'il prie pour nous autres. C'est-tu magnifique, ça? Alors, quand quelqu'un comprend ça, il se rend compte que changer Jésus
et de le remplacer. Remplacer le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, ce n'était pas une perte. Au contraire, c'était un gain. Après ça, il avait démontré que Jésus était un meilleur sacrifice. Le sacrifice, à l'époque, c'était quoi? Des animaux. Tu mettais tes mains sur la tête de l'animal, tu t'identifiais à l'animal et tu disais, c'est l'animal qui va payer pour mes péchés. Et c'était comme l'identification. Et l'animal, comme ça dit dans l'Écriture, le sang de l'animal couvrait les péchés, mais ne l'ôtait pas. C'est en train de dire, Jésus, quand il est venu, à cause du fait qu'il était parfait, premièrement, c'était du sang d'homme et non pas du sang d'animal, et ce sang-là, il ôte le péché. Alors, et la différence, c'est qu'il était, Jésus, on dit de lui qu'il est impeccable. Impeccable, ça veut dire qu'il n'a jamais péché, d'aucune façon, ni dans ses pensées, ni dans ses paroles, ni dans ses actions, ni dans ses omissions, ni d'aucune façon. Alors, c'était la victime parfaite. Alors, lui, pourquoi Dieu a déversé son jugement sur lui? Pas parce qu'il avait fait quoi que ce soit de mal. Il a déversé la colère qui aurait dû tomber sur nous, sur son Fils. Parce que nous aussi, on s'identifie à lui. Il est l'agneau sur lequel on identifie. Nous aussi, on se dit, on met nos péchés sur lui. Et le Père juge nos péchés sur Christ, qui lui, avait rien payé. Là. Il n'avait rien payé, il ne devait rien à qui que ce soit. Alors que nous, il lui a accepté de prendre sur lui, comme on a vu d'ailleurs dans Ésaïe 53, il a su faire nos péchés, pas les siens, nos péchés. Alors, après ça, il avait parlé que Christ était le médiateur d'une nouvelle alliance, qui était une alliance éternelle, et que cette alliance-là avait une caractéristique particulière, qu'elle était absolument efficace, et que ça l'avait ouvert un chemin nouveau qui était parfait et vivant. On le sait, quand Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau du temple, dans l'ancien temple qui était à cette époque-là, là, qui était apparemment, ça avait 2 pouces d'épais, ce rideau-là. Ça s'est déchiré du haut en bas. Au moment même de la mort de Christ, qu'est-ce que ça signifiait? C'est que le nouveau chemin était maintenant ouvert, ce qui, dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, le souverain sacrificateur pouvait entrer une seule fois par année. Il fallait qu'il recommence continuellement. Le fait que le rideau s'est déchiré du haut en bas, ça voulait dire que le travail de souverain sacrificateur de Christ était accompli une fois pour toutes. Tu n'avais plus besoin de recommencer ça toutes les années. C'était parfait. Ensuite, on avait vu, dans le chapitre 11, les fameux héros de la foi, ils avaient tout passé. Là, il avait voulu démontrer, vous ne perdez rien, mes amis, là, en abandonnant ce système-là. Et là, il a pris tous les saints, pas toutes, mais il a pris beaucoup d'exemples à partir du début d'Abel. Et c'est en venu, il a démontré que peu importe les circonstances dans lesquelles les gens ont traversé dans leur vie, ils étaient toujours victorieux. Alors, il voulait leur faire prendre conscience, si tu lâches le judaïsme, tu ne seras pas perdant. Même si les circonstances deviennent difficiles et que les Juifs te persécutent et que ça t'amène énormément de souffrances ou que ça te fait perdre des privilèges sociaux, économiques ou n'importe quoi, tu ne perds rien. Et tu, à la fin, même si tu coup sur la terre, tu peux souffrir, mais à la fin, tu vas être gagnant parce que Dieu va te protéger jusqu'au bout. Il va te permettre que tu puisses supporter ce qu'il permet qu'il arrive. Ils devenaient, à ce moment-là, certains d'entre eux ont été des martyrs, quand on se souvient d'Hébreux 11, il y en a qui ont souffert énormément. Et c'est pas à cause que quelqu'un souffre que Dieu l'a abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. Et après ça, dans le chapitre 12, on avait commencé à regarder que l'auteur de l'Épître aux Hébreux avait voulu démontrer aux nouveaux croyants juifs qui s'étaient convertis qu'il existait des ressources pour persévérer. Alors, il leur disait, je sais que vous êtes dans la misère, je sais que vous souffrez, je sais que vous êtes exclus, je sais que vous avez de la difficulté, mais il y a des ressources, autrement dit, des moyens pour continuer, pour persévérer. Autrement dit, persévérer à croire en Jésus-Christ, puis abandonner ça. Puis là, il leur dit, voici les moyens que je vous ai laissés. L'exemple de Christ. Quand ces gens-là avaient quand même, parce qu'on pense que l'Épître aux Hébreux était écrite dans les années à peu près 60, qui est autour de là. Alors déjà, les plusieurs livres du Nouveau Testament étaient déjà écrits, les évangiles. Alors ils savaient déjà toutes sortes de choses. Alors l'exemple de Christ, la plupart de ces gens-là, beaucoup des gens qui vivaient à l'époque de l'Épître aux Hébreux, avaient même vu Christ. Alors pour eux, l'exemple de Christ, c'est on a vu comment il a agi lorsqu'il était sur la terre. Alors, c'est un exemple de persévérance. Après ça, il leur avait rappelé l'amour du Père qui châtie les siens. Autrement dit, nous autres, là, quand on devient des chrétiens, là, le Père ne nous laisse pas aller dans toutes sortes de niaiseries. Si on pêche publiquement ou on fait des péchés graves, il va nous corriger. Et des fois, ça fait mal, se fait corriger. Quand on corrige un enfant, des fois, il pleure. Mais quand il pleure, parfois, il se souvient que la prochaine fois, recommence pas parce que tu vas recommencer le même traitement. Mais nous, c'est la même chose. Dieu, parfois, va nous corriger, mais si, après nous avoir corrigé une fois, on recommence encore, bien, ça peut arriver que la deuxième correction. Alors, autrement dit, tu persévères parce que Dieu ne t'abandonnera pas à t'en aller dans toutes les directions. Si tu fais trop de péchés, il va te corriger. Et il leur avait rappelé que l'apostasie, c'est-à-dire abandonner la véritable foi après que tu l'as connue, c'était un grave péché. Et là, il leur disait, on était rendu à la fin du chapitre 12, une décision finale s'impose. Vous devez de choisir maintenant. Après tout ce que je vous ai démontré, tu ne peux pas rester et dire, je vais rester un pied dans le judaïsme puis un pied dans le christianisme. Il fallait qu'ils se mettent les deux pieds dans le christianisme puis qu'ils sortent l'autre pied du judaïsme. Alors, on était rendu là. Le chapitre 13, il nous dit que si on veut persévérer, il y a des moyens, d'autres moyens que ceux que je viens de vous nommer pour continuer. Et c'était quoi? La persévérance dans l'amour fraternel. On est des chrétiens, on a une assemblée, il faut venir à nos assemblées parce que c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Pas une invention de Marcel Longchamp, là, ce que je vous dis là. C'est les Écritures qui nous disent que Dieu déverse ses bénédictions dans l'assemblée. Il dit, si vous voulez persévérer, pour ces gens de l'époque, c'est important qu'ils aillent à leurs assemblées, c'est aussi important aujourd'hui. Après ça, il dit, il y a un autre moyen, l'hospitalité. À l'époque, c'était très important que les gens soient hospitaliers, il y avait des pasteurs qui voyageaient, et il n'y avait pas des hôtels dans tous les coins de rue comme aujourd'hui, là. Alors, les chrétiens se devaient, entre eux autres, d'être hospitaliers. Et on avait vu aussi dans cette leçon-là que l'hospitalier, ça dépassait énormément juste emmener quelqu'un dîner chez vous, là. Ou souper, ou même coucher. C'est d'avoir le cœur ouvert aux besoins des autres, l'hospitalité. Après ça, on avait vu qu'on se devait d'avoir de la compassion pour les affligés. Alors, ça fait partie de la vie chrétienne. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste le cœur froid envers les besoins des autres. Il veut qu'on soit ouvert, qu'on ait de la compassion pour les gens qui sont affligés. Comme Jésus en a eu. Jésus a guéri des personnes qui n'ont pas été nécessairement sauvées. Mais par amour, il faisait des choses pour les gens, même si ça ne leur donnait pas automatiquement le salut. Après ça, il leur a dit que on avait vu que c'était des devoirs pour persévérer. Mais il y avait aussi des prohibitions. Il faut vous fassiez toutes ces choses-là, mais il y a des choses que Dieu nous défend de faire. Puis c'est à quoi? L'impureté sexuelle. Il parlait du mariage. Il parlait que si quelqu'un, par exemple, se met à avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, ça va le souiller et ça va l'affaiblir. Et un membre de l'assemblée qui est affaibli, affaiblit l'assemblée. Même si on s'en rend peut-être pas nécessairement compte, là, un membre affaibli, affaiblit l'assemblée. Alors, il disait, faites attention à ne pas faire de péché d'adultère. Après ça, il nous disait une autre chose auquel il fallait faire attention d'une façon particulière, la convoitise. On est tous portés à la convoitise. On a de l'argent, on en veut plus. On veut toujours plus. On est des immenses siphons qui pourraient siphonner l'univers, mais il n'y aura pas encore assez. Quand on a la preuve de ça, les gens qui sont déjà des milliardaires, mais ils n'arrêteront pas, ils en veulent encore. S'ils n'ont un, ils en veulent deux. Puis s'ils n'ont deux, ils en veulent quatre. Ça, c'est le cœur humain. Mais on est tous le cœur rempli de convoitise. Quand Jésus est venu, il l'a reproché, faites attention à la convoitise, faites attention à la convoitise. Après ça, il nous a parlé du mécontentement. Faut pas être mécontent. Parce que quand on est mécontent des circonstances dans lesquelles Dieu nous place, on est en train de dire à Dieu, Toi, là, tu ne sais pas ce que moi j'ai besoin. Pensez-vous que ce n'est pas blasphématoire de faire une affaire pareille? Le contentement, c'est simplement savoir que Dieu est au contrôle des circonstances dans lesquelles il nous place. Et des accepter comme chrétien, c'est simplement dire, Seigneur, c'est souffrant ce que tu m'envoies. Je ne comprends pas nécessairement pourquoi tu le fais, mais les Écritures nous disent que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est un verset qu'on entend à toutes les sauces. Moi-même, je l'ai utilisé souvent, puis je ne suis pas sûr que je le comprends encore à 100%. C'est un verset qui est tellement profond. Il est en train de nous dire que toutes les circonstances de nos vies, dans les moindres circonstances, c'est comme un immense tricot. Toutes les choses travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ça le dit, ils travaillent. Toutes les choses que Dieu nous envoie sont des choses qui travaillent ensemble pour notre plus grand bien et pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Et ces choses-là, il ne faut pas s'imaginer qu'elles ne sont pas nécessaires. Dieu ne nous fait pas souffrir par plaisir. Il permet la souffrance pour nous faire comprendre des choses, pour nous faire avancer, pour nous faire rassembler davantage à Jésus-Christ. Alors, on a vu les prohibitions. Et après ça, il nous avait parlé de la victoire de leur leader, qui était maintenant rendu au ciel. Il avait parlé de la considération de la nature de leur autel spirituel, de leur ville, de la Jérusalem céleste. Et autrement dit, en train de leur dire, vous vivez dans une ville qui s'appelle Jérusalem, c'est une ville. Mais la vôtre, la nouvelle Jérusalem, c'est celle qui est céleste. Alors, il est en train de leur faire lever le regard un peu vers en haut. Et il avait parlé aussi qu'on se devait d'utiliser la louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Un chrétien, dans nos prières, souvent, les prières des hommes, je sais par expérience, les prières des hommes, les Anglais avaient une belle expression que j'aimais bien, c'est « gimme, gimme, gimme ». Tu t'en vas devant Dieu, et la première chose que tu fais, c'est « donne-moi, 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 donne-moi. Give me, give me, give me. Give me, give me, give me, give me. » On est toujours en... C'est pas défendu par les Écritures de demander au Seigneur des choses. Mais il y a des choses qu'on devrait faire avant de lui présenter nos requêtes, nos besoins, nos intercessions. Et c'est quoi là, ce qu'on devrait faire avant? La louange, parce que quand on se présente devant Dieu, nous, on est imparfaits et on ne se rend pas compte vraiment de la grandeur infinie du personnage devant lequel Dieu nous laisse entrer en sa présence. Alors, quand on rentre, disons, devant le roi, un roi ou une reine, on lui présente nos hommages, là, bonjour, puis tu sais, on est coulant, comme on dit. Puis nous, on se présente devant Dieu, puis... C'est comme, on dirait qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est pour ça que je le demande souvent dans mes prières, ce temps-là. Seigneur, permets que je comprenne davantage la grandeur. Mais quand on parle, on mesure-tu notre mot, là? Infini, sagesse infinie, sainteté infinie, miséricorde infinie, amour infini. Ayez tout ça en même temps, puis si on verrait sa gloire, là, on mourrait instantanément avec nos corps. On ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Même les anges les plus saints qui se présentaient devant l'Éternel, lisez Isaïe 6, quand ils se présentent, les chérubins, les anges les plus saints, ils se bouchent les yeux puis ils crient « Gloire !» Autrement dit, en bon québécois, ils capotent. C'est... Mais nous, on rentre là puis on « Give me, give me, give me. » Il faut s'arrêter un peu, prendre le temps de comprendre la grandeur du personnage devant lequel on se trouve et louer avant de demander. Je pense qu'on a besoin de réapprendre ça. Moi, le premier, là, on est tous pareils. Après ça, il leur avait parlé que oui, on se devait de louer notre Dieu et on se devait de pratiquer la bienfaisance. La bienfaisance, c'est faire du bien autour de nous. Et les Écritures nous disent qu'on se doit de faire du bien d'abord auprès des frères et des sœurs en Christ, mais ça n'exclut pas de faire du bien en dehors. Des gens qui ne sont pas nécessairement des chrétiens, mais le Seigneur nous demande de pratiquer la bienfaisance envers ces gens-là. Ça fait partie de la vie chrétienne, pour persévérer. Parce que tu fais ce que Dieu te demande. Dieu veut qu'on ait le cœur ouvert envers les gens. Et après ça, il leur parlait de libéralité. C'est quoi la libéralité? C'est la générosité. Autrement dit, tout ce que Dieu te demande de faire avec ton argent, soit pour faire avancer les causes missionnaires, soit payer ta dîme, soit n'importe quoi, là, tout ce qui a un rapport avec l'argent et ton église locale, la libéralité, ça veut dire t'es généreux. Hier, on parlait avec Jean, là, que Raymond Perron avait déjà connu, un millionnaire américain qui semble-t-il, il n'arrêtait pas de donner son argent de tout bord, de tout côté, pour toutes sortes de causes. C'est ça, la libéralité. Parce que quand tu es riche, tu peux dire, ah, moi, je suis dans ma petite bulle, puis vous autres, votre misère, endurez-la. La libéralité, quand on est chrétien, le Seigneur peut permettre qu'on soit riche, mais il nous dit, partage, sois généreux. Alors, on était rendu là. Voyez-vous, on fait un grand voyage, on a fait Hébreux 13 chapitres en 20 minutes, c'est bon. Après ça, il nous avait dit, bon, on reprend nos affaires de la semaine passée, on va aller très rapidement. Parce que je vous ai donné tout à l'heure les 5 points, les 5 devoirs que vous avez à notre égard au conducteur. Et on les a vus tantôt, on va les reprendre rapidement, l'obéissance, le respect. Ensuite, on avait la joie. Si vous voulez me rendre joyeux, marchez dans le Seigneur. Plus je vais vous voir marcher dans le Seigneur, plus je vais vous voir obéir, plus je vais être joyeux. Puis la Bible dit que si vous me rendez joyeux, ça va se tourner à votre avantage. C'est spécial. Puis si vous me rendez malheureux, comme le texte le dit, ils font en gémissant. Avez-vous déjà entendu ça, un pasteur gémir? Oh, j'aimerais tellement ça qu'elle comprenne. J'aimerais tellement ça qu'on... On gémit, on a mal. On aimerait que les gens comprennent ce qu'on leur dit. Des fois, il faut le dire 10 fois. Au bout de la 11e fois, des fois ça clique. Des fois, ça en prend 20. Des fois, ça en prend 25. Mais la façon de rendre un pasteur joyeux, c'est quand il dit quelque chose pour le bien de vos âmes, que ça porte fruit, ça accroche au cœur. Et la joie, et un autre, la prière. C'est un devoir. Un devoir, c'est quelque chose qu'on se doit de pratiquer. Pourquoi je vous ai donné la feuille? Parce que j'espère que vous allez la mettre dans votre Bible. Et j'espère que chaque fois, vous pourriez même vous en servir comme d'un... un signé. Mettez-le que vous allez rendu, ou vous êtes rendu. Ça fait que quand vous allez ouvrir, faire vos lectures quotidiennes, vous allez voir votre feuille. Et là, vous allez dire, faut que je prie. Vous allez prier. Et notre problème aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on pense que la prière, elle n'a pas d'effet. On n'en voit pas souvent, mais il y en a de l'effet. Si toute l'Église se met à prier pour ce qui est marqué là, moi je vous garantis qu'il va se passer de quoi, on va le sentir nous-mêmes. Il va se passer de quoi. Alors, mais pourquoi on ne l'a pas? A little prayer, a little power. More prayer, more power. Much prayer, much power. Mais ça, c'est dans nos vies personnelles, comme dans la vie de l'Église. Un peu de prière, un peu de puissance. Plus de prière, plus de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Mais appliquez-le à vous. Plus vous allez prier, plus vous allez être solide, plus vous allez être fort dans le Seigneur. Moins vous allez prier, moins vous allez être fort dans le Seigneur. Ça, c'est pas moi qui l'invente, là. Je vous le dis, c'est scriptural. Donc, vous avez le devoir de la prière. Et la dernière, pourquoi Paul, il dit, je vous le dis avec insistance. Il insiste parce que lui, il sait que si les gens le font, ça va avoir un impact sur son ministère et ça va avoir un impact sur vos vies, sur votre marche chrétienne, sur votre... Alors, c'est important, la constance. Non seulement il dit, fallait pas juste aujourd'hui... Fallait tous les jours. Puis tu demandes pour le conducteur, mais en même temps, fais jouer un tour au Seigneur, fais dire, ben je le demande pas juste pour le pasteur, je le demande pour moi aussi. Parce que si ce que vous demandez pour lui, vous pouvez le demander pour vous autres aussi. Alors vous allez être exaucé si vous n'avez pas d'obstacle à la prière et vous allez profiter de ça. Alors on était rendu là. Vous. Là, il nous reste les versets 20 à 22. On avait parlé de l'obéissance au conducteur délégué. Donc, ça, c'est les pasteurs. Après ça, l'obéissance au conducteur, moi, je l'ai appelé décrété, 20 à 22, parce que là, ça parle surtout de Dieu. Il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Il parle de qui? Le grand pasteur des brebis, c'est qui? Jésus-Christ. Alors, il parle de Dieu le Père, il parle de Dieu le Fils, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Pour persévérer, les chrétiens doivent se rappeler certains décrets divins. Pourquoi je dis, conducteur, décréter? Les décrets divins, c'est Dieu qui a décrété. Si je suis chrétien aujourd'hui, c'est pas ma décision, c'est la décision de Dieu le Père. La décision de ce qui s'est passé dans le Conseil Trinitaire. Alors, c'est lui qui est le maître à l'intérieur de ça. Donc, l'œuvre du Père dans le verset 20. Donc, on doit se rappeler certains décrets divins. L'œuvre du Père, l'œuvre de Christ, l'œuvre du Saint-Esprit. Verset 20, on parle surtout de l'œuvre du Père. Les Hébreux, nouvellement convertis, doivent se rappeler que c'est Dieu le Père qui a pris l'initiative de leur salut et qu'ils sont en paix avec Dieu, le juge. Son omnipotence est vue dans le fait qu'il a ressuscité Jésus. Il a envoyé Jésus et le miracle, si Jésus aurait été crucifié sur la croix, puis qu'on n'aurait jamais entendu parler, on sera tous dans le trouble. Qu'est-ce qui a fait? Quelle est la signature divine de l'œuvre du salut? La résurrection. Dieu a démontré non seulement il approuvait ce que Jésus l'a fait, mais c'est comme sa signature. Il l'a ressuscité des morts. Alors ça, c'est important. Quatre titres du Christ sont rappelés dans ce passage-là. Quatre titres du Christ. Jésus est le grand pasteur des brebis. La traduction Osterval donne le souverain pasteur des brebis. Le mot souverain traduit l'idée de supériorité absolue, de règne et d'autorité. Il est le souverain pasteur. Osterval, il a dit, au lieu de traduire le grand pasteur des brebis, il a traduit le souverain pasteur des brebis. Souverain, ça veut dire quoi? Un souverain, c'est quelqu'un qui est le maître. C'est lui qui dirige tout ce qui se passe sur la terre. Il est le souverain pasteur des brebis de nous. Il a tous les droits sur nous. Il nous a rachetés, il a tous les droits. Et un autre terme, un autre titre de Christ qui est annoncé là-dedans, celui de grand berger. Celui qui conduit, c'est fait quoi un berger? Conduit les brebis, nourrit les brebis, surveille les brebis et protège les brebis. Alors, le grand berger lui fait ça pour toutes les brebis de la terre. Mais, dans sa souveraineté, il a voulu qu'il y ait des petits bergers, comme nous autres, qui lui, il fait sa job-là, mais au niveau local. Et c'est par l'intermédiaire de ces sous-bergers qu'il fait le travail de mener les gens. Alors nous, plus on va être sanctifiés, plus on va être des hommes de prière, plus normalement ça devrait se refléter sur vous. Alors l'autre titre, c'est que ça dit « le sauveur ». Le nom hébreu de Jésus, c'est Yehoshua. Et ça veut dire « Dieu sauve ». Ça, c'est le nom de Jésus, Yehoshua. En hébreu, c'est Yehoshua, Dieu sauve. Et il y a un autre titre, celui de « le médiateur de la nouvelle alliance ». Alors, quand on lit le texte d'aplomb, on se rend compte que, ils viennent nommer quatre titres de Jésus-Christ. Alors, il est le médiateur de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est l'alliance trinitaire qui est éternelle. Souvent, il faut préciser, l'alliance éternelle, c'est l'entente qu'il y a eu au ciel avant que la terre soit créée, de Dieu choisissait qui il voulait sauver et qu'il permettait que dans le temps et dans l'espace, quand Jésus viendrait, tous ces gens-là bénéficieraient de l'œuvre de Jésus-Christ par la foi. Et l'œuvre du Saint-Esprit, la part du Saint-Esprit, c'est deux choses. La régénération, donc un jour que t'as allumé, t'as compris, et la sanctification, autrement dit, il ne te reste pas dans l'état que tu étais au début. La sanctification, ça veut dire qu'il te sépare pour lui du péché et il te rend meilleur. Alors, c'est l'entente entre les trois personnes de la Trinité concernant les conditions de la nouvelle alliance. L'œuvre de Christ est également rappelée par le sang, qui est la sanction et le sceau de cette alliance. Verset 21, donc on parlait de l'œuvre du Père en premier, après ça, verset 21, il dit, « Notre œuvre est résumée dans cette phrase, « Vous rendre capable, » il parle de nous, « de vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » Dieu a une volonté, puis c'est par Jésus-Christ qui nous prépare à être capable d'accomplir les choses que lui veut pour nous et fasse en nous, en vous, ce qui lui est agréable. Donc, Dieu travaille d'une façon à ce qu'il permet que nous, on finisse par accomplir sa volonté. Et il utilise toutes sortes de moyens, dont la correction, dont l'épreuve, dont il utilise tous ces moyens-là. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, lorsqu'on est dans l'épreuve, lorsqu'on est dans la difficulté ou lorsqu'on est dans le découragement, c'est d'abandonner son assemblée. Parce que Dieu lui-même veut que vous veniez à votre assemblée, parce que c'est là qu'il se passe quelque chose, il se passe l'encouragement. Quand on vous dit, Dieu, pourquoi Dieu a voulu qu'on ait une assemblée? Il aurait pu nous sauver, puis nous permettre qu'on reste, qu'on soit fort tout le monde, qu'on reste chacun dans notre petit coin. Pourquoi il a voulu qu'on soit ensemble? Parce que les Écritures nous disent qu'il nous a donné des dons spirituels. Bien souvent, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est dans les assemblées, puis on ne sait même pas encore c'est quoi notre don. Ça veut-tu dire qu'on n'en a pas?
Non,
ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Parce que ça veut dire probablement que vous n'avez pas eu d'enseignement sur le sujet. Puis que, mais quand Dieu dit que dans une assemblée, il permet toutes sortes de dons qu'il nomme dans 1 Corinthiens et ailleurs, là, dans Pierre, je pense, et dans d'autres, Éphésiens, je pense. Et il donne tout un enseignement sur les dons spirituels. Alors, tout le monde qui est ici ce matin, tout le monde qui sont des véritables chrétiens, ont un don spirituel. Un, ça peut être l'encouragement, l'autre, ça peut être d'autres choses. Mais les dons, quand on est dans l'assemblée, ils s'exercent. Pas ce que vous voyez ce que je veux dire. C'est que si vous êtes là et vous avez un don d'encouragement ou d'exhortation, même sans vous en rendre compte, dans vos conversations, dans votre manière d'agir avec les autres, votre don, il transparaît. Puis plus on le connaît, puis plus on le pratique, notre don, plus... Mais aussi, quand on va dans une église, il se passe toujours deux choses. Il se passe le fait qu'on donne, parce qu'on a reçu quelque chose du Seigneur, que le Seigneur veut qu'on partage avec les autres, et on reçoit aussi. La preuve, vous êtes en train d'écouter, vous recevez quelque chose. Mais moi... Je reçois quelque chose de vous autres. Quand je discute avec vous autres, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Des fois, là, c'est quand on s'assoit chez nous, qu'on se met à analyser tous les petits bouts de conversation qu'on a eus. Moi, je me suis déjà fait dire dans une assemblée, puis je suis sûr que vous pouvez faire la même chose, « Tu m'as grandement encouragé. » Hein? Et quelqu'un vient me dire, « Tu m'as grandement encouragé aujourd'hui, juste par la conversation qu'on a eue. » Moi, je te dis, « Qu'est-ce que j'ai dit? » Lui, il s'est encouragé parce que Dieu fait quelque chose... par moi pour lui. Mais des fois, c'est l'inverse. Dieu fait quelque chose à travers lui pour moi. Et tout ça, ça se passe dans une assemblée. De là, l'importance à assister à tes assemblées. Alors, il dit, tout se fait à cause de Christ, par Jésus-Christ. Et tout doit se faire pour la gloire de Dieu au siècle des siècles. Alors, on a la source, on a le moyen, puis on a la fin. La source, le moyen, la fin. N'oublions pas que Jésus-Christ est l'Amen. Apocalypse 3, 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit, on parle de Jésus-Christ, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Croiriez-vous ça que Charles Spurgeon, qui est un des plus grands prédicateurs de tous les temps, a fait un sermon complet sur le mot Amen? Êtes-vous sûr que vous savez tout ce que ça veut dire « Amen » Des fois, on pense qu'on le sait. Parce qu'on pense que ça veut dire, comme les catholiques, quand on finissait nos prières, ils avaient traduit « Amen » par « Ainsi soit-il ». Ça fait partie du mot « Amen », mais c'est plus large que ça. Alors, dans un sermon complet sur ce sermon, sur ce verset, c'est-à-dire le mot « Amen », le grand prédicateur anglais Charles Spurgeon donne au mot « Amen » trois principaux sens. L'affirmation forte, quand tu affirmes quelque chose de très fortement, là, en anglais, ils appellent ça « asserting ». Tu veux faire quelque chose. Après ça, il y a le consentement. Quand on prie, puis qu'à la fin, vous dites « Amen », à ce que moi je dis, vous êtes en train de dire « J'approuve ce que Marcel vient de demander » ou « J'approuve ce que Marcel vient de dire ». Et après ça, il y a ce qu'on appelle la prière, le « petitioning ». Alors, en anglais, c'est « Asserting, Consenting, Petitioning ». Il a fait un sermon d'une heure là-dessus. Il faut le faire. Alors, on va reprendre les trois parties. L'amen comme affirmation forte de vérité. Je vais vous donner des exemples où Jésus-Christ a utilisé cette affaire-là. Quand nous lisons Jésus dans les évangiles qui dit « en vérité, je vous le dis », dans le texte original, c'est le mot « amen, amen ». Si vous allez dans un texte grec, Jésus ne dit pas « je vous le dis », il dit « amen, amen ». Je vous le dis. Amen, amen, je vous le dis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment le sens de amen, de asserting, une affirmation forte. Pourquoi il dit deux fois? Parce qu'il veut insister. Il veut insister. Amen, amen, je vous le dis, une affirmation forte. Alors, amen, parfois, dans ce sens-là. Alors, amen, amen, c'est Jésus qui voulait garantir la vérité de ses paroles. Amen, amen, c'est vraiment, je vous dis que ce que je vous dis là, c'est extrêmement fort. C'est ça que ça veut dire, garantir la vérité de ses paroles en raison de sa propre autorité. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse proclame que Jésus est l'amen. On comprend? On en comprend qu'il est la vérité. Autre, amen comme consentement et adhésion. Dans la Bible, on répond amen pour marquer notre adhésion à une bénédiction, une malédiction ou une autre déclaration solennelle. C'est la façon pour une personne ou un groupe de répondre à une prière d'action de grâce pour que la prière devienne la sienne. On retrouve d'ailleurs plusieurs « amen » dans les psaumes. Lisez les psaumes, là, et quand le mot « amen » est dit, c'est vraiment un consentement et une adhésion à ce qui est dit. Et maintenant, la troisième façon, parce que celle-là, on l'utilise souvent, on l'utilise tout le temps quand on prie, en bas, là. N'importe qui, quand on prie, souvent, on va dire « amen ». Alors, les premières communautés chrétiennes, même s'ils ne parlaient pas hébreu, terminaient leur prière en disant « Amen ». En français, certains avaient l'habitude de répondre aux prières par, on le sait, « Ainsi soit-il ». Moi, quand j'ai appris mon Notre Père par cœur, et il nous faisait dire à la fin du Notre Père, on ne disait pas « Amen », à ce moment-là, on disait « Ainsi soit-il ». Alors, c'est en effet une façon de traduire le mot hébreu « Amen », mais elle ne rend pas compte des divers sens de l'Amen hébreu. Dans sa langue d'origine, Amen porte l'idée de la solidité, de la vérité et de la fidélité. Dire Amen, c'est dire oui, c'est vrai, c'est du solide. On parle même du mot du Dieu de l'Amen, le Dieu à qui l'on peut faire confiance, qui tient parole et qui accomplit ses promesses. Maintenant, verset 22, l'œuvre du Saint-Esprit. Dans le verset 22, « Je vous en prie, frère, de supporter ces paroles et exhortations que je vous ai écrites brièvement. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence fort probablement à toute la lettre pour signifier quelle est la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit et qu'il leur faut lui donner l'autorité divine et d'obéir en conséquence. Voyez-vous, tout le raisonnement qu'on a vu tout à l'heure en 20 minutes, on a fait tout. Dans le fond, là, ils sont rendus au moment où il faut qu'ils disent « Amen. Ça, là, c'est du solide. Ça, je peux dire, j'adhère à ça. C'est ça qui était rendu là. » Et les versets 23-25, je l'ai appelé, troisième point, l'obéissance au conducteur déclaré. Parce que là, il sort, on a commencé par voir les conducteurs délégués. Ensuite de ça, il nous montre les conducteurs divins. Et ensuite, il parle qu'il y a d'autres conducteurs. Nous, on le sait, on va aller. Quand on va dans une réunion pour l'association, c'est d'autres conducteurs avec lesquels on a de la communion. Alors, c'est ça. Il nous dit ici, dans Hébreux 13, 23, 25, « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. » Timothée, il n'était pas à Jérusalem, il était ailleurs, ou s'il était à Jérusalem, il n'était pas là au moment. Il était relâché, je ne sais pas de quoi il fait référence, s'il était en prison ou quoi. Alors, il dit, « S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. » Et là, il ajoute, « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. » Alors, après ça, il dit, « Ceux d'Italie vous saluent. » Alors, fort probablement qu'il connaissait bien les saints qui vivaient en Italie. Alors, on voit la communion fraternelle des saints qui dépasse le cadre local, qui s'étend à d'autres chrétiens de d'autres... Alors, comme chrétiens, nous devons collaborer avec les frères et sœurs de même précieuse foi. Les Écritures utilisent même ce terme-là de même précieuse foi. Si on va à Saint-Jérôme, les gens croient à peu près la même chose que nous. Alors, ce sont des gens de même précieuse foi. Et avec ces églises-là, on se doit de maintenir des rapports les plus chaleureux, les plus solides, les plus intelligents. Priez pour eux. Quand vous priez pour vos pasteurs, vous pouvez prier pour Jean et moi, mais vous pouvez prier aussi pour l'ensemble des pasteurs de l'association. Pensez-vous que Dieu ne comprend pas que c'est qui? Il sait c'est qui. Et là, en ce moment-là, la prière, au lieu de s'appliquer à deux hommes, va s'appliquer à 12, 15 hommes. Et on peut l'étendre même à tous les pasteurs du monde entier. Le Seigneur connaît les siens. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans ces versets-là? « Sachez que notre frère Timothée est relâché. » On voit dans le verset 23, il y a quelque chose de personnel. « Nous nous devons d'être conscients que toute bonne nouvelle concernant nos frères et sœurs dans le monde a un effet bénéfique sur nous. » Voyez-vous, il nous annonce que Timothée va être relâché et il sait que ça va leur apporter de la joie. C'est comme si nous autres, là, il n'y aurait un d'entre nous qui se serait fait mettre dans un pénitencier à cause de sa foi, puis que là, on apprendrait qu'il a fait un an, puis que là, il sortirait, puis là, je viendrais vous dire, « Savez-vous que un tel ou une telle est sorti de prison ?» Ça nous ferait plaisir. C'est personnel. La foi devient personnelle. Alors, nous aimons nos frères même lorsque ceux-ci sont loin. Nous sommes une très grande famille bénie par notre lien commun, la glorieuse et merveilleuse personne de Jésus-Christ. L'on constate ici que les liens d'emprisonnement, les liens d'études ou les liens d'expérience commune tissent des liens forts et permanents. Nous devons avoir une profonde empathie pour les chrétiens persécutés, maltraités et emprisonnés à cause de Christ. On le fait en bas des fois le mercredi, et on fait bien de le faire. Parce que si on se rend dedans, ça ferait 2-3 ans qu'on se rend dedans, qu'on serait maltraité, on mangerait mal, juste la pensée de savoir qu'il y a des chrétiens sur la terre qui, s'ils seraient capables, ils nous sortiraient de là, ils nous feraient bien manger, ils nous sortiraient de la misère. Juste le fait de penser qu'il y a des gens qui pensent à nous. Apparemment, il n'y a rien de pire pour un prisonnier que de penser que tout le monde l'a abandonné puis qu'il n'est plus dans l'esprit de personne. Quand on sait que quelqu'un pense à nous, automatiquement, c'est comme un réconfort. Alors, c'est personnel, il nomme un nom, Timothée. Ensuite, c'est universel. Il dit « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints ». Donc, c'est une grande famille. La famille vient de s'élargir encore davantage. Donc, l'amour authentique va s'exprimer. Elle ne connaît pas les barrières raciales. Elle ne connaît pas les barrières culturelles. Elle ne connaît pas les barrières linguistiques. Même si je me ramasse avec un Russe demain matin, si je sais que c'est un véritable chrétien, on trouvera bien le moyen de parler de Jésus-Christ quelque part. Je vais lui dire « Ouvre ta Bible en russe », puis je vais lui montrer le passage, puis on va finir par communiquer d'une façon ou d'une autre, même si je ne parle pas. Alors, même si c'est des gens de cultures différentes, d'instructions différentes, j'ai vu ça des fois dans les églises, il y en a qui sont des universitaires, puis il y en a qui sont des gens qui travaillent dans une manufacture, ils ont une cinquième année. Mais ces gens-là, là, s'ils parlent du Seigneur Jésus-Christ, ça va passer. T'sais? Normalement, un universitaire, il n'y a pas trop d'affinité avec des gens qui n'ont pas d'instruction. Mais quand on est chrétien, on a vraiment quelque chose en commun qu'on peut parler. Universel. Donc, peu importe. Par exemple, il y a des gens qui viennent au Seigneur dans des conditions sociales. Ils peuvent être médecins, C'est arrivé qu'il y a eu des rois qui se sont convertis. Mais moi, si je rencontrerais un roi qui est chrétien, il m'aimerait, puis moi, je l'aimerais. Alors, même la barrière qui est une barrière de richesse, dans le monde, vous remarquerez que tout le monde y tient à la petite clôture. Hein? Tout le monde y tient. Mais quand on est chrétien, tout ça, c'est supposé de tomber. Du moins, c'est supposé. Et de richesse et d'instruction. Et dans le verset 25, ça dit « Que la grâce soit avec vous tous. » Et gardez le dernier mot. Le dernier mot d'hébreu. Amen. Amen. C'est ça qu'il dit, le dernier mot. « Que la grâce soit avec vous tous. » Et là, il dit « Amen. » Affirmation forte. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est du solide. Alors, ce qui unit les chrétiens, c'est la grâce de Dieu. C'est l'amour et la faveur de Dieu. Les communications de Christ et les provisions et les bénédictions du Saint-Esprit, cette précieuse grâce est efficace, prévenante. Il ne faut pas oublier ça aussi, des fois, les grâces prévenantes. On peut en demander des grâces prévenantes. On peut demander à Dieu, « Tu me connais sur tel point, je ne suis pas trop fort, je ne suis pas trop solide. Je te demande une grâce prévenante sur ça pour pas que je fasse ce péché-là. » Dieu peut accorder des grâces prévenantes. On pourrait aller voir plusieurs passages des Écritures pour nous montrer que Dieu accorde des grâces prévenantes. Il y a des grâces aussi habilitantes. Je pense que ça sera mieux. Je ne sais pas si c'est habile. Un professeur de français, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Habilitantes, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire, habilitantes? Si Dieu me disait, du jour au lendemain, « Marcel, je veux que tu ailles... dans un pays où il y a de la guerre là, actuellement, je ne sais pas moi, où est-ce que ça brasse vraiment, là. Il dirait, je veux que tu ailles là et je veux que tu évangélises là. Moi, je pourrais dire, mais Seigneur, tu me connais, moi, la violence, puis les armes, puis les mitraillettes, j'ai peur. Une grâce habilitante, je pense qu'il y a bien habilitante. Grâce habilitante, c'est que Dieu, s'il te demande quelque chose, il va te donner ce qu'il faut pour l'accomplir. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de rassurant que savoir que Dieu te demandera pas quelque chose qui te donnera pas l'habilité pour être capable de le faire. S'il me demanderait de faire ça, il me donnerait en même temps la force pour aller, disons, aller évangéliser dans les pays musulmans, là, où tu peux te faire, si tu parles de l'Évangile, là. Puis Dieu dirait, je veux que tu ailles évangéliser dans un pays musulman. Moi, personnellement, actuellement, là, sans habilitation, je dirais, Seigneur, pas sûr, là. Mais s'il dirait, comme il disait à Jérémie, va, comme il disait à Gédéon, va avec la force que je te donne. Alors, il y a des grâces habituelle, réconfortante et toute suffisante. Il est significatif que le dernier mot de l'Épître soit le mot « Amen ». Il prend ici son sens le plus large, une affirmation forte de vérité, un consentement et une adhésion, et une prière qui est expectative. C'est le nom de Christ lui-même dans Apocalypse 3:14. Dire « Amen », c'est dire « Oui, c'est vrai, c'est du solide ». N'est-ce pas une façon magistrale de terminer l'Épître? Elle est absolument vraie et absolument solide. Misons dessus, nous serons tous absolument gagnants. Quelles sont les applications qu'on peut faire? On a fait ça, ça fait quasiment un an qu'on est sur Hébreu. Bon, à partir d'Hébreu, qu'est-ce qu'on peut apprendre? De quelle façon on peut grandir dans le Seigneur? Puisque l'obéissance est la preuve de l'authenticité de notre foi, mettons en pratique ce que ce passage nous enseigne, en particulier. Nos conducteurs spirituels terrestres, les pasteurs, sont des dons de Dieu pour notre bien. Il y a des dons spirituels, ça c'est des habilités qu'il nous donne dans un domaine particulier, qu'on parlait tout à l'heure de dons spirituels. Et le Seigneur dit dans les Écritures qu'il nous en a donné à tous, sans exception, au moins un ou plus qu'un. Ça c'est ses affaires. Dans sa souveraineté, il donne ce qu'il veut à qui il veut. Puis il donne ce qu'il veut, en quantité qu'il veut. Alors, il nous dit ici, les pasteurs, il y a des dons spirituels, mais il y a des dons d'hommes. Le Seigneur, c'est comme s'il disait, je vous donne cet homme pour faire le travail de vous faire avancer dans la foi. Donc, ce sont les conducteurs spirituels terrestres sont des dons de Dieu pour notre bien. Nous avons des devoirs et des obligations envers eux. Et ça, on n'aime pas ça se faire rappeler nos devoirs. Ben, ça dépend. L'obéissance, la déférence, la joie, la prière et la constance. Mettons en pratique ces choses, car en le faisant, nous contribuons fortement à notre propre solidité spirituelle. Quand je vous disais tantôt, vous priez pour moi, le Seigneur me donne l'onction de l'Esprit, parce que s'il me donne l'onction de l'Esprit, quand je vais prêcher, ça va toucher vos cœurs. Puis quand ça touche vos cœurs, ça amène une transformation. Et tout ça, ça, c'est comme une chimie. Ça n'arrivera pas si vous ne priez pas. Puis ça va arriver, tout à l'heure on le disait, little prayer, much, much more, même chose. Plus vous allez prier, plus vous allez vous-même en profiter. Et nous, bien entendu. Après ça, deuxième chose qu'on peut mettre en application du texte, méditons souvent et profondément sur les infinis avantages de la nouvelle alliance trinitaire. C'est une œuvre d'une solidité à toute épreuve parce que conçue et appliquée par les trois personnes de la Trinité. Imaginez-vous une œuvre que c'est Dieu qui la conçoit. Puis il y a une entente entre les trois personnes. C'est d'une solidité qu'on ne peut même pas nous... On ne connaît rien d'humain qui ait cette force-là. Alors au moins, méditons dessus et apprécions-la. Comme ça le dit dans les Écritures à beaucoup d'endroits, le salut vient de l'Éternel, en anglais. Salvation is of the Lord. Je l'aime beaucoup. Le salut, c'est une œuvre de Dieu. Donc, quand il te l'accorde, tu es sûr que tu vas commencer au commencement, puis tu es sûr que tu vas te rendre jusqu'à la fin. Il ne dit pas que tu n'auras pas de misère entre les deux, mais tu vas te rendre au bout. Parce que c'est son œuvre, à lui, pas notre œuvre à nous. Alors, ce qu'il a commencé en nous, il le terminera. Et pour moi, ça, c'est une consolation plus grande que ça, c'est presque impossible. Parce que si Dieu, ce ne serait pas son œuvre, moi, je ferais longtemps à retomber, puis je vais retourner dans le monde. Le péché nous enveloppe facilement. Comme ça peut faire des années qu'on est chrétien, puis ça nous attire encore. C'est la preuve que ça fait partie de notre être. C'est notre vieille nature, elle est là. Mais Dieu nous dit, malgré ça, je vais te corriger, je vais t'instruire, je vais te faire connaître des choses, mais tu vas te rendre au bout. Moi, je veux me rendre au bout. C'est le bout que je veux voir. Troisièmement, sachons que nous appartenons à une très grande famille, unie par le merveilleux lien qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi des devoirs et des obligations envers eux, amour personnel et universel. Quand on prie pour des chrétiens qui sont, je ne sais pas, emprisonnés dans les prisons, moi je ne les connais pas, là. Mais je peux imaginer, par en ayant vu certains films, que les prisons dans des pays comme, je sais pas, mais, le Mexique ou des places comme ça, quelqu'un est emprisonné là, ou les chrétiens qui étaient emprisonnés dans le temps de la guerre en Russie, ils les envoyaient en Sibérie dans des camps de travail. Il y a des gens, des chrétiens qui ont, comme nous autres, là, qui ont passé des 10 puis des 15 ans là. À quelque part, là, il ne te reste plus grand-chose. Qu'est-ce qui te reste? Si tu as une Bible, ils vont te l'enlever. Qu'est-ce qui te reste? La prière! C'est ça qui tient ces gens-là debout. Ils s'agenouillent, puis ben non, même s'il y en a qui verraient agenouillés, ils pourraient se mettre les faire lever, là, parce que c'est... Mais ils ne peuvent pas empêcher ton esprit de communiquer avec Dieu. Alors ça, c'est important. Alors, amour personnel et universel, même si je ne les connais pas, ces gens-là, je les aime pareil. Puis on se devrait de prier plus souvent pour ces choses-là. Les gens qui sont persécutés, les gens qui sont emprisonnés, les gens qui sont torturés. Il y en a qui sont torturés pour leur foi. Nous, on est confortable quand même attendu le mot torturé, ça ne fait pas trop mal. Mais si on serait assis 5 minutes dans leur chaise, on verrait que ça... Parler de torture intellectuellement, puis vivre la torture assis sur une chaise quand il y a quelqu'un qui te fait mal, c'est pas la même game du tout. Alors, c'est pour ça qu'on se doit de prier pour eux. Pensez-vous que Dieu fait rien quand que moi je, ou que vous, vous leur demandez, vous demandez à Dieu, je sais qu'il y a des tes saints sur la terre. Pourquoi Dieu permet ça? Il ne nous explique pas nécessairement pourquoi. C'est là la foi. La foi, c'est de faire confiance en Dieu, peu importe les circonstances dans lesquelles il nous place, sachant qu'il est sage. Et que tout cela, ça va contribuer à notre plus grand bien et à nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. C'est ça, la foi. Vous avez déjà parlé de la femme, de, je ne me souviens plus qui, là, que le missionnaire avait été en Amérique du Sud. Son mari arrive en Amérique du Sud, il se fait tuer par une lance d'Indien. Jim Elliott, je pense. Elle retourne aux États-Unis. Après quelques temps, elle se marie avec un directeur d'école biblique. Quelques temps après, le gars a le cancer du cerveau, apparemment c'est le cancer le plus douloureux que tu peux pas avoir. Il en est mort. Imaginez-vous, être au service de Dieu, son mari meurt, elle se marie une deuxième fois, son deuxième mari meurt. Si quelqu'un n'a pas la véritable foi, là, c'est sûr qu'il va slider, comme on dit en québécois, il va abandonner. Qu'est-ce qui a fait que cette femme-là a pu se maintenir dans la foi? Romains 8, 28. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle a dû se le dire maintes et maintes et maintes et maintes et maintes fois. Nous, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que Dieu nous fait traverser des choses aussi difficiles que ça, mais il peut nous en faire traverser de toutes sortes de niveaux. Et nous aussi, on a besoin de se rappeler que Dieu, toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vraiment de le croire. C'est pas juste. Tu dis au Seigneur, je ne comprends pas. Ça fait mal, mais je sais que tu as raison, puis je sais que tu ne m'envoies pas ça juste pour le plaisir. Le Seigneur n'est pas un sadique qui aime nous faire souffrir. Quand il nous envoie des choses, c'est pour nous faire grandir. Même si on ne s'en rend pas compte sur le coup, comme ça dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est que parfois ça prend du temps. Et quand il nous parle des corrections du Seigneur, quand il nous parle des châtiments, il dit que sur le coup ça fait mal, mais que plus tard ça produit un fruit paisible. Alors sur le coup, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais avez-vous remarqué, moi j'ai remarqué une chose dans la vie, vous l'avez probablement dû remarquer aussi, les personnes qui sont le plus ouvertes aux misères des autres, c'est qui? Les personnes qui ont souffert eux autres-mêmes. Moi, une fille à Québec, elle m'avait dit, « Oh, je suis assez tanné, ça règne de moi, je voudrais mourir. » Elle était rendue qu'elle souffrait beaucoup. « Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur m'a envoyé ça. Pourtant, j'essaie de marcher, puis j'essaie de suivre. » Ben, il dit, « Peut-être qu'il est en train de préparer ton cœur pour que tu sois plus ouverte aux misères des autres. Peut-être que dans quelques années, tu vas voir quelqu'un souffrir, puis automatiquement, ton cœur va être comme attendri par la misère de l'autre. Tu vas aller l'aider. » Je ne sais pas si c'est ça, mais c'est sûrement des choses de ce style-là que le Seigneur fait avec nous autres. Alors, il ne faut pas accueillir les choses du Dieu m'oublié. Faut faire confiance à Dieu. C'est ça qui est. Et surtout, comme je disais tantôt, ne jamais abandonner vos frères et vos sœurs, puis vous retirer dans votre petit coin et vous isoler. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Il faut que vous veniez chercher la lumière, l'encouragement, la chaleur que vous allez recevoir dans l'Assemblée. Sinon, vous allez vous refroidir encore davantage, puis vous allez vous isoler encore davantage, puis ça va faire encore plus mal. Je pense pas que ce soit ça que Dieu veut. Parce qu'en faisant ça, vous désobéissez parce que Dieu veut qu'on aille à notre assemblée. Si on y va, on obéit. Si on y va pas, on désobéit. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ soit exalté éternellement. Amen. Alors, notre Dieu, merci encore une fois pour nous avoir rappelé toutes ces vérités, pour avoir révisé un peu le message de l'Épître aux Hébreux. Seigneur, on voit que Jésus-Christ, lorsqu'on est vraiment éveillé à la grâce, que tu nous fais la grâce de comprendre qui il est, on serait bien fou de vouloir retourner dans un système sacrificiel d'animaux. Mais nous aussi, Seigneur, aujourd'hui, on se doit de comprendre que tout ce que tu fais est sage. Donne-nous de pratiquer le contentement. Donne-nous de te faire confiance en toutes choses, en tout temps. On te demande toutes ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.